Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et on va retrouver notre passage que nous avons considéré la semaine dernière, 1 Roi chapitre 17. Et le titre du message, comme vous avez pouvez voir, c'est Dieu né par mort 2. Et jusqu'à ce qu'il revienne, nous allons proclamer ce beau message. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Quelqu'un a dit, Dieu est vivant, je lui ai parlé ce matin. Et souvent, nous chantons, Dieu est vivant, pourquoi? Parce que je sais qu'il vit en moi, n'est-ce pas? Alors, c'est la bonne nouvelle que nous avons à proclamer haut et fort à nos contemporains aussi, et c'est de dire aussi, les uns les autres. Alors, 1 Roi chapitre 17, et cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 7. Juste pour vous rappeler, la semaine dernière, nous avons vu justement le contexte de ce passage. Israël est en désobéissance. Dieu va soulever un homme, Élie, justement pour parler au roi, pour le sensibiliser et sensibiliser la nation de leur mauvaise voix et aussi amener par la bouche de son prophète prédire une famine qui allait sévir dans le pays. Et nous avons vu aussi ce que Dieu a fait en Élie, nous avons vu ce que Dieu a fait à travers Élie et nous avons vu aussi ce que Dieu a fait pour Élie. Alors, 1 Roi chapitre 17 au verset 7, nous lisons ceci. « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. » Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà notre texte pour ce matin. Et comme je vous ai dit, l'acteur principal pour le moment, c'est cet homme Élie, qui se démarque dans cette nation qui est donnée à l'idolâtrie, et où le culte à Baal, le faux dieu des Canaanites, a remplacé justement le culte au seul vrai Dieu, l'Éternel. Nous avons vu Élie la semaine dernière, un homme qui était connecté à Dieu. Un homme qui était vraiment dérangé par ce qui se passait au point d'aller passer du temps devant son Dieu. Un homme aussi qui est sorti de cette entente avec Dieu, ce temps qu'il a passé ensemble, rempli de l'Esprit de Dieu, courageux pour aller affronter justement le roi d'Israël, Achab, avec sa femme Jézabel, et prononcer justement la sentence que Dieu et le jugement de Dieu contre la nation. Et nous avons vu aussi Élie qui, après cela, Dieu l'a mis à l'écart pour un certain temps. Alors Élie vivait justement selon ce qu'il avait dit. Il avait dit à ce roi, « Dieu, l'éternel Dieu d'Israël, est vivant. » Alors il savait que Dieu était vivant. Il disait que Dieu était vivant. Et il vivait comme si Dieu était vivant. La vérité de cette phrase que l'Éternel est vivant transpirait justement à travers sa vie. Et ce matin, nous devrions nous poser cette même question. Nous savons que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Nous avons célébré justement ce matin le repas du Seigneur. Où est-ce que le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Il est ressuscité, le tombeau est vide. Nous disons aussi souvent, Jésus est vivant. Nous le chantons aussi même, comme je vous ai dit, il vit. Mais est-ce que dans notre vie, ça paraît que notre Dieu, l'Éternel, est vivant? Ce matin, j'aimerais vous proposer trois choses qui devraient caractériser la vie de ceux qui disent justement que Dieu est vivant. Trois choses qui caractérisent la vie de ceux qui disent que Dieu est vivant. Et la première chose, c'est que ces personnes-là, si nous disons que l'Éternel est vivant, nous devrions marcher par la foi. Nous devrions marcher par la foi. Et si vous regardez votre texte encore, au verset 7, nous allons lire ceci. « Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » La semaine dernière, nous avons laissé Élie à côté d'un torrent. Dieu pourvoit à ses besoins. Il y a justement les corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. On pourrait se poser la question, mais où est-ce qu'ils ont trouvé cela? Quelqu'un a bien suggéré que probablement ils allaient justement au palais de Achab, le roi, et cherchaient justement, parce qu'il y a une famine, mais Achab est justement sa femme et toute cette royauté, sans doute, ils ont plus de vivres et de nourriture que les pauvres citoyens. Alors, sans doute, ils sont allés la chercher, cette nourriture. On ne sait pas, mais ce que quelques commentateurs ont suggéré, pour nourrir justement Élie. Alors, nous avons le surnaturel. Et Élie est bien, il est très bien. Là, il est à l'abri, il est caché. Dieu pourvoit à ses besoins de façon régulière. Matin et soir, il y a de quoi manger, il y a de la viande, il y a du pain, mais aussi il y a le torrent. Ça, c'est le naturel. Et nous lisons que le torrent fut à sec. Et vous pouvez imaginer, Élie, il boit, il mange, et ça continue. Mais à un moment donné, il a remarqué qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passait. Le niveau, justement, de ce torrent, imagine que c'est comme un bassin, il y a de l'eau là-dedans, ça commence à baisser. Et ça commence à baisser. Et à un moment donné, un jour, il a pris sa dernière gorgée. Et là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Éternel, le Dieu qui contrôle tout, qui est en contrôle de toutes choses, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes, qui est même capable de faire un miracle où est-ce que les oiseaux amènent du pain et de la viande pour nourrir son serviteur, Comment se fait-il qu'il n'y a pas permis que le torrent continue? Mais je vais vous donner un exemple ici parce que il a voulu sortir Élie de son zone de confort. Il y a un danger, je peux vous dire ceci. Quand les choses vont très bien, il n'y a pas de souci pour Élie, il est bien protégé, il a sa nourriture, il est seul avec Dieu. Il y a un danger qu'on tombe justement dans la routine du confort. Et nous avons un bel exemple dans Matthieu chapitre 17, où est-ce que vous avez les disciples qui sont sur la montagne de Transfiguration. Et Jésus va paraître devant eux, brillant dans toute sa splendeur. Et vous vous rappelez justement les paroles de Pierre, « Seigneur, quoi, il est bon pour nous d'être ici. Ah, que la vie est belle !» Dressant trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. On va rester ici. La vie est belle, on est bien dans ta présence. Wow! On va rester sur la montagne. Et ça, c'est un danger aussi qui guette justement quand nous sommes dans le service pour le Seigneur, de tomber justement cette attitude de tout va bien et on va rester là. Deuxième chose qui pourrait nous arriver, c'est que notre foi doit être éprouvée. Ça, c'est une vérité spirituelle. La foi, c'est comme un muscle. Et si un muscle va être justement en santé, fort, il faut l'exercer. Et dans les voies de Dieu, à l'école de Dieu, Dieu cherche toujours à nous amener de pas en pas pour justement augmenter notre foi. Parce que souvent, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Homme, de quoi? De peu de foi. Alors nous avons besoin justement des situations comme cela, comme Élie avait besoin d'éprouver sa foi. Et la troisième chose aussi que nous voyons ici, c'est qu'en se déplaçant et en étant être obligé de quitter justement qui hérite avec le torrent, ça ouvre aussi la possibilité d'avoir une sphère d'influence ailleurs. Actes chapitre 8, vous avez justement les disciples qui sont à Jérusalem, il y a la grosse église. La vie est belle, tout va bien. Et qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur permet croire une persécution. Étienne est lapidé et la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont été dispersés suite justement à la persécution, quoi, ils allaient de lieu en lieu, faisant quoi, annonçant la bonne nouvelle de Jésus. S'il n'y avait pas eu de persécution, quoi, ils auraient pu rester à Jérusalem dans le but de confort. Mais le Seigneur a cru bon de permettre cela et justement ouvrir un chemin pour une autre sphère d'influence. Mais nous lisons aussi qu'au bout d'un certain temps, et ça c'était un autre aspect de qu'est-ce qui se passe ici. Ça n'est pas arrivé coup sec qu'à un moment Élie se lève et ouais, il n'y a plus rien. C'était de façon graduelle au bout d'un certain temps. Et on ne sait pas si ça a pris un mois, deux mois, mais ils remarquaient jour après jour que le niveau baissait. Vous allez me dire, mais écoute, Dieu, est-ce qu'il est cruel? Là, il y a le temps de se rendre compte qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'eau. Il y a le temps justement de commencer à réfléchir que ça tourne. Et là, vous savez que dans une telle situation, il y a deux possibilités. On peut paniquer ou bien on peut se confier. Et je vous suggère qu'ici, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas justement mis le temps à sec d'un coup? C'est parce qu'aussi quand on marche dans le chemin de la foi, nous avons besoin d'apprendre une leçon qui est extrêmement importante. C'est de rester tranquille et d'attendre justement la voix du Seigneur pour le prochain pas. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. D'apprendre à son serviteur, jour après jour, il sait, il est conscient qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien. Mais tout ce temps-là, le Seigneur est en train de le former justement à son école, que quand tu es à mon service, je veux que tu apprennes à rester tranquille. Et il y a un beau texte que j'aimerais vous laisser arrêter. La version anglaise dit « be still, restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je suis en contrôle. Et ça, c'est une leçon importante, justement, qu'Eli, il a fallu qu'il apprenne que Dieu était en contrôle. Se confier dans l'Éternel. Et là, nous avons justement un exemple ici d'Élie, une confiance absolue, où est-ce qu'il va et il a pris sa leçon, il a pris justement d'attendre en silence, attendre le secours de l'Éternel, et nous lisons au verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. » Pensez-vous qu'il aurait pu entendre la voix du Seigneur s'il était en train de faire les 100 pas? Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vois l'eau qui diminue. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le prophète a appris, dans le calme, dans la tranquillité sera votre secours. Et là, Dieu va lui donner justement la solution à cette problématique. Jamais en retard, jamais trop tôt, au bon moment, le moment que le torrent fut à sec, Dieu arrive avec la réponse. Oh, que notre Dieu est incroyable. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se lava et alla à Sarepta. Juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe ici. Ici, c'est Kérit qui est là, et il faut qu'il traverse juste ici, puis aller ici. C'est en anglais, mais Zarephath, c'est la même chose que Sarepta. Et j'aimerais juste faire remarquer quelque chose ici. Sarepta, ça appartient à Sidon. Vous rappelez que Jézabel est une Sidonienne, son père, c'est le roi du Sidon. Où est-ce que l'Éternel l'envoie? En plein territoire ennemi. La dernière place que les personnes vont penser à le chercher. Parce qu'il est en hors la loi maintenant. Il y a un prix sur sa tête. Tout le monde le cherche, mais Dieu l'envoie en plein milieu, justement, du territoire ennemi. Demeure là, ce n'est pas une visite là, de courtoisie, il faut qu'il reste là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et ça aussi, c'est un autre aspect. On a parlé de l'humilité ce matin. Les veuves étaient justement des individus très, très pauvres dans ce contexte. C'est un Israélite. Il s'en va dans un pays païen. Puis il faut qu'il dépend justement d'une veuve pour le faire vivre. Il faut qu'il avale justement son orgueil. Vous rappelez justement de Jonas quand le Seigneur voulait l'envoyer à Ninive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme avec sa fierté d'Israël, un juif, il ne voulait pas y aller. Et là le Seigneur dit à son serviteur, non, je t'envoie chez les païens, chez les gentils, et même tu vas être obligé pour vivre de dépendre d'une femme veuve. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il marche par la foi, il se lève et il va à Sarepta. Quel bel exemple pour nous. Vous savez, vous et moi, nous avons des torrents. L'âge. Vous les jeunes, vous êtes en train justement de... Ah, la vie est belle, j'ai ma force, mais à un moment donné, si le Seigneur ne revient pas, vous allez être comme moi. Vous allez commencer juste à manquer de force, d'énergie, toutes sortes de choses qui vont arriver. Le torrent va commencer à sécher. La santé aussi, ça c'est notre problématique. Et ça peut arriver jeune ou tard, vous allez chez le médecin. Et là, vous recevez un rapport qui n'est pas tout à fait luisant. Ça arrive. Les finances aussi, ça peut changer d'un moment à l'autre. La vie est incertaine et les torrents sont là. Et comme je vous dis, il y a tous ces torrents, la liste n'est pas exhaustive, mais ça peut arriver. Alors, comment est-ce que nous allons marcher? Comment est-ce que nous allons justement réagir face à ces situations-là? Mais prenons l'exemple d'Élie. notre Dieu, et je vous donne le texte qui est dans Psaume 46, parce que les deux versets vont ensemble. Le psalmiste va dire ceci, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors, si j'aimerais vous encourager ce matin, si vous croyez que l'Éternel, notre Dieu, est vivant, croyez aussi qu'il peut prendre soin de vous. Il n'est pas jamais pris au dépourvu. Vous êtes son enfant, il vous aime. Même les cheveux de votre tête sont comptés, sont justement, il sait exactement ce dont vous avez besoin. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de Kérit. C'est le Dieu de Sarepta. C'est le Dieu qui est en contrôle de tout. Un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Et qu'est-ce que nous devrions faire un peu comme justement Samuel, quand ces choses arrivent, rester calme, regarder vers l'Éternel, un peu comme Moïse a dit aux enfants d'Israël devant la mer Rouge et Pharaon n'a rien, restez en place et voyez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ce jour. Et ça, c'est justement l'attitude de ceux qui marchent par la foi. Et de dire comme le jeune Samuel, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Deuxième chose qui devrait caractériser ceux qui disent que l'Éternel est vivant, non seulement qu'ils devraient marcher par la foi, mais ils devraient aussi vivre, partager la foi. Vous savez, et je vous ai mentionné ça la semaine dernière, Israël, le plan de Dieu pour Israël, c'est de prendre cette nation pour qu'elle soit une lumière pour les païens. Le plan de Dieu était toujours de bénir toutes les nations. Il a dit à Abraham, je t'appelle, je te ferai une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et l'Éternel a toujours voulu que Israël soit cette lumière pour les nations et d'être une source de bénédiction en obéissant à ses commandements et justement être une source de bénédiction pour les autres nations. Et dans le contexte de 1 Roi 17, toute la nation est dans la désobéissance, sauf il y a des 7000 qui sont là, et Élie. Et si le Seigneur ne peut pas justement faire ce qu'il veut par la nation sur le niveau qu'on peut dire macro, il va le faire aussi sur le niveau micro. Et là, il va prendre un homme, un Israélite, et l'envoyer aussi maintenant chez les païens pour être cette lumière, de démontrer que Dieu est vivant. Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, c'est ce verset 10b11, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Alors, la situation, Élie obéit, comme nous avons vu. Il se lève, s'en va à Sarepta. Sans doute, il a voyagé de nuit. Il faut aussi être sage. Hein? Il ne faut pas dire, « Ah, tiens, le Seigneur m'envoie à Sarepta, puis je suis un intouchable, puis il se promène en plein jour. » Non, non, je pense qu'il a utilisé aussi du bon sens. Du gros bon sens, puis probablement il a voyagé la nuit. De toute façon aussi, il est plus frais. Puis ça aussi, c'est plus pour voyager. Et là, il arrive et il y a cette femme qui est là. C'est une femme veuve. Sans doute, il l'a reconnue justement par son habillement. Quand j'ai resté à Montréal, je sais que chez les Italiens, les femmes veuves portent toujours du noir. Alors, il y avait une voisine, elle était veuve, elle était italienne, puis elle était toujours habillée en noir. Alors, comme ça, on savait qu'elle était veuve. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici. Probablement, elle avait une tenue vestimentaire, mais il sait que c'est cette veuve-là. Et là, il y parle, il demande qu'elle, justement qu'elle apporte de l'eau. Et après ça, quand elle s'en allait le chercher, elle demandait qu'elle porte du pain. Alors, on peut se demander ici, mais écoute, c'est quoi la probabilité qu'il rencontre justement cette femme à ce moment précis à l'entrée de la ville. S'il serait arrivé une journée plus tard, elle serait morte parce qu'elle dit, on va manger puis on meurt. parce qu'on voit ça dans l'histoire. S'ils arrivaient une journée plus tôt, ils ne seraient pas là. Même à une autre heure aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On va dire un bon Québécois, ben, c'était un addon. Hein? Ça a donné, hein? C'est un addon. Mais j'aimerais vous suggérer que c'est plus que cela. C'était ce qu'on appelle la providence. Dieu a voulu que cet homme rencontre cette femme et il a orchestré des circonstances pour que les deux se connectent. La providence. Un contact providentiel. Il arrive là, puis la femme est là. Il y a de belles exemples dans la parole de Dieu. Joseph et les Ismaélites, des frères de Joseph, ont fait des mauvais coups à Joseph. Ils voulaient le tuer. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un qui il voit une caravane d'Ismaélites qui passe. Et dans leur tête, ça ne donne rien de tuer notre frère. On peut faire un peu d'argent. Alors, ils ont vendu, justement, Joseph aux Ismaélites qui allaient où? En Égypte. Et où est-ce que Dieu voulait que Joseph soit? En Égypte. Alors, providence. Moïse est la fille de Pharaon. Moïse est caché, justement. On raconte ça aux enfants à l'école dimanche dans des beaux petits paniers. Et qui vient pour se baigner à ce moment précis? La fille de qui? De Pharaon. Encore une fois, la providence de Dieu qui a voulu que Moïse soit élevé par, justement, dans la cour royale. Philippe est l'eunuque. Philippe est en train de faire une campagne d'évangélisation. Et Dieu lui dit, quitte, va dans le chemin qui est désert. Et qu'est-ce qui se passe? Un eunuque qui passait là, qui avait besoin, justement, d'entendre l'évangile. Alors, c'est toutes sortes de choses qui nous montrent que Dieu est en contrôle. Et quand vous êtes dans ses voies, Élie marche par la foi. Dieu est en train d'utiliser son serviteur, il y a un plan pour sa vie. Cette femme est dans le plan de Dieu et Dieu fait en sorte que les deux vont justement se rencontrer. Mais cette femme, vous voyez sa condition désespérée, elle dit « L'Éternel est en dur et vivant. » Je n'ai rien, je n'ai qu'une poignée de farine, un peu d'huile, nous mangeons, après quoi nous mourrons. Et ça, c'est une scène qui est assez touchante. L'Éternel, ton Dieu, c'est une femme qui n'ose même pas s'identifier ou bien rechercher l'aide de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les païens, les gentils, les gens, elles se voient même exclues, justement, comme on voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 12. Elles ne peuvent pas revendiquer, justement, demander de l'aide parce que les païens n'avaient pas d'espérance en ce qui concerne le Dieu d'Israël. Ils se voyaient, justement, à côté. Ça, c'était la nation préférée. Ça, c'était une nation choisie. Puis elle, une adoratrice de Baal, une femme païenne, elle n'ose même pas, dans cette condition désespérée, dire « L'Éternel, peut-être, je n'ai même pas de relation. C'est ton Dieu. » Et il y a aussi une implication dans le texte « Ton Dieu est vivant. Mon Dieu Baal que j'ai servi. » Voilà, il y a cette famine ici. On est en train de mourir. Ton Dieu est vivant, mais le mien, il est mort. Je n'ai pas de ressources. Puis je n'ai pas d'espérance. Quelle condition triste. Éphésiens 2 nous disent ceci, quand Paul parle aux gens qui étaient avant Christ, il dit, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous êtes des étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quelle condition terrible! Et cette femme est dans cette condition-là, puis elle dévoile son cœur devant Élie. Et Élie n'est pas insensible. Regarde ce qu'il va dire à cette femme. Ne crains point. Cet homme qui connaît la présence de Dieu, il voit une pécheresse ici, désespérée, il est capable justement de la rassurer. Ne crains point. Et là, avant, elle va maintenant lui montrer comment connecter avec le vrai Dieu, l'Éternel qui est vivant. Il va lui donner ce test de foi. OK, tu vas préparer, comme tu dis, un gâteau avec justement la farine, mais mets-moi d'abord. Et puisque je suis l'homme de Dieu, si tu fais cela, tu es en train de mettre Dieu premièrement dans ta vie. Cette femme-là a un choix. Si ce que Élie dit est faux, et elle prend la farine et l'huile, elle le divise en trois, elle va mourir avec un tiers justement dans sa ventre, dans son ventre. Si Élie dit ce qu'il dit et elle dit non, j'ai raté cela. Si ce qu'Élie dit est faux, elle ne veut pas croire. OK? Puis elle dit non, je ne te crois pas. Je vais justement faire comme je voulais. Je vais prendre le gâteau, je vais diviser en deux entre moi et mon fils. On va mourir. Elle va mourir. Hein? Puis là, elle va quoi? Elle va avoir la moitié d'un gâteau dans le ventre. Si, par exemple, elle croit Élie, elle divise en trois, puis ce n'est pas vrai non plus. Elle va mourir quand même, mais avec un tiers du gâteau dans le ventre. Fait qu'elle n'a rien à perdre. Mais si ce que Élie dit est vrai, il y a toute une différence. Et souvent, quand on évangile, on dit aux gens, écoute, si ce que je vous dis, et les gens disent, oh, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, c'est ici, quand on mange, that's all. Mais si vous avez raison qu'il n'y a rien, et puis rien, puis rien, puis je n'ai rien perdu, mais si ce que je vous annonce est vrai, vous avez tout à perdre. Et justement, cette femme leur a cru à la parole parce qu'Élie a basé cela sur la parole de Dieu. Un test de foi et on voit ici que ça a été récompensé. Elle alla et fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Quelle belle image de la grâce de Dieu, hein, qui part, qui s'en va chercher cette femme dans cette condition désespérée pour lui donner justement un peu d'espérance. Vous savez, il y a une parallèle ici avec nous aussi parce que ceux qui marchent par la foi partagent le froid. Et il y a toutes sortes de conditions. Dieu peut, justement, où est-ce que vous êtes, au travail, dans votre voisinage, n'importe où, Dieu est capable de mettre des gens sur votre chemin comme il a fait Élie et cette femme et vous connecter ensemble parce qu'il y a des gens qui sont comme cette femme aujourd'hui qui sont désespérés et qui ont besoin justement d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a l'espoir. Ça, c'est une manière. Il y a d'autres aussi manières. On voit que l'apôtre Paul, quand il allait de ville en ville, il allait dans les synagogues. Alors lui, il est allé provoquer justement les contacts et chaque situation est différente. Je n'ai pas en train de dire qu'un est meilleur que l'autre. Il y a une panoplie, justement, de façons de partager notre foi. Il y a les fermiers chrétiens. Il y a des gens qui aiment ça, aller, justement, distribuer des traités. Quand il y a l'heure de la bonne nouvelle, qui donne des signes. Quand vous allez au restaurant, vous pouvez laisser, justement, une petite carte. Toutes ces manières-là sont bonnes pour démontrer que l'Éternel est vivant. Et ma petite lumière, il y a des ténèbres en Israël. Mais comme on dit aux enfants, il faut qu'elle éclaire. Et Élie s'allie ici éclairer cette femme. Je vous raconte une petite histoire, juste avant de terminer. Et on nous raconte l'histoire d'un barbier qui était allé justement, il y avait une réunion de réveil. L'évangile est prêché et cet homme est sauvé glorieusement. Il est tellement content. Et le lendemain, il voulait justement partager sa foi avec justement un de ses clients. Et là, il pensait à toutes sortes de manières. Mais comment est-ce que je peux partager ma foi avec cette personne? Et là, il regarde son client qui est là. Il a le rasoir dans sa main, puis proche de la gorge du monsieur. Puis il dit, « Êtes-vous prêt à rencontrer ton Dieu? » Alors, soyons sages quand notre façon de partager l'Évangile. Et troisièmement, je termine avec ceci. Ceux qui disent que l'Éternel est vivant, non seulement ils marchent par la foi, partagent la foi, mais aussi vivent par la foi. Pendant longtemps, versets 15 et 16, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. J'aimerais juste être clair sur ce point ici. Vivre par la foi, parce qu'on peut voir un aspect ici où est-ce qu'elle dépend justement du Seigneur. Et souvent, on entend cette notion. Il y a des missionnaires, il y a des personnes qui vont quitter leurs emplois, puis ils vont vivre par la foi. Mais vivre par foi est plus que cela. Dans ce texte ici, nous avons une femme, et remarquez ici en ce qui concerne l'huile et la farine, le Seigneur n'a pas fait une multiplication comme il a fait avec les cinq pains et les deux poissons. Ça reste toujours. Et j'imagine qu'à chaque fois qu'ils vont, gratter, hop, il n'y a plus rien, mais il revient le lendemain, il y en a. Ça reste stable. Ici, il y a une notion de persévérance. Il faut revenir à chaque jour au pot, il faut revenir, retourner à la cruche et faire confiance. Il y a la persévérance. Et nous aussi, en tant que chrétiens, le vivre par la foi, quand on dit que l'Éternel est vivant, ça devient un style de vie. Le plan pour notre vie, on persévère dans la sanctification. Un plan pour l'Église, on persévère dans le service. Un plan pour sa moisson, on persévère dans les efforts d'évangélisation. Une promesse de son retour, on persévère justement en se rappelant du Seigneur à chaque dimanche matin. Il y a ici ce style de vie de ceux qui disent que l'Éternel est vivant, qui démontre par cela, par leur persévérance. Et je termine avec ceci, une image extrêmement importante, touchante ici. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Là, vous avez une Israélite. Là, vous avez une païenne, des gentils, assis ensemble à une même table, ils partagent le même repas. Ça, c'est le plan de Dieu pour les nations. Israël avait échoué, mais le Seigneur a permis justement qu'un Israélite accomplisse sa volonté. Et quand chaque croyant vit dans la foi, Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand vous et moi, nous sommes en train de poursuivre justement cela, quand nous sommes en train de vivre par la foi en étant un style de vie, nous sommes capables d'avoir cette communion voulue par le Seigneur dans l'Église locale. Qu'est-ce qui détruit cela? C'est justement quand nous sommes charnels et quand nous vivons selon la chair. Alors, l'Éternel est vivant. Ce matin, j'espère que vous êtes convaincus que si vous dites haut et fort qu'il est vivant, vous devriez marcher par la foi parce qu'il est vivant. Vous pouvez partager votre foi parce qu'il est vivant et communiquer la vie à d'autres. Et aussi, continuer et persévérer à vivre par la foi, parce que Christ vit en nous. Et avec cette vie en nous, nous sommes capables d'être ensemble dans une belle communion, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit hispanophone, qu'importe, le plan de Dieu, c'est cette lumière, cette communion autour de sa personne, autour aussi de sa parole. On va prier. Seigneur notre Dieu, on te bénit. Tu es le Dieu de grâce, de miséricorde. Oh Seigneur, combien tu aimes, même en 2019, des âmes perdues. Combien tu soupires de voir des hommes et des femmes venir au pied de la croix. Et merci Seigneur que tu nous as mis en nous la parole de la réconciliation. Alors aide-nous Seigneur, chacun de nous, d'être cette lumière qui brille dans un lieu obscur. Comme Paul a dit aux Philippiens, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Seigneur, que nous puissions, oui, te laisser nous façonner. Te faisant confiance, Seigneur, que le chemin que tu traces pour nous, tu es capable justement d'utiliser cela pour que nous puissions avoir un impact dans cette génération perverse et rompu, parmi lequel nous vivons, et que nous puissions, Seigneur, briller comme les flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Alors, Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse ici, dans chacun de nos vies, et aussi pour ton Église ici, au Cap-Namadnen. Demandons ces grâces au nom de Jésus.